L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Ben, gloire à Dieu. Êtes-vous prêts ce matin à aller dans la parole? Amen. Gloire à Dieu. On va pencher nos têtes et remettre cette portion au Seigneur. Père éternel, je viens devant toi ce matin encore une fois et je veux te remercier, Seigneur, pour ce privilège, ce saint privilège qu'on a de tourner nos regards dans ta parole ce matin. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant et tu veux parler à tes enfants aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, pour la révélation que tu nous accordes, pour le feu, Seigneur, que tu viens allumer, où tu viens souffler sur le feu qui est déjà là. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta présence qui est ici. Seigneur, sans toi, on ne pourrait rien faire. Mais à cause de toi, Seigneur, en toi, Seigneur, tu nous qualifies. Tu nous qualifies, Seigneur, on peut faire des exploits en toi. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui est ici. Seigneur, je t'invite à me remplir ce matin de ton esprit, que je puisse parler seulement les paroles qui sont sur ton cœur ce matin. Et merci, Seigneur, parce qu'on accueille ta gloire parmi nous. On accueille le ciel ici dans cette place. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu vas faire ce matin. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Ce matin, le titre de l'enseignement, c'est les stratégies de l'Esprit. On va parler les stratégies du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans quelques références ici. Ben, je dis quelques, mais ceux qui me connaissaient, ça a plusieurs références. Mais on va aller dans Habacuc 2 et le verset 14. Habacuc 2 et le verset 14. Ça nous dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Je vais le relire, Habacuc 2, 14. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Je vais relire. « Car la terre sera rempli de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Le croyez-vous ce matin? Je vais relire. Ça dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ça veut dire que partout à travers la terre, on va entendre parler de la gloire de l'Éternel. Il va y avoir cette connaissance qui va être là. Et mon cœur, notre cœur ici à l'Église, c'est d'accueillir la gloire de Dieu. On sait que dans les temps de la fin, même quand on va être enlevé, il va y avoir une visitation de l'Esprit, il va y avoir un grand réveil. Mais nous, on relâche pas notre foi seulement pour dans quelques années, on relâche notre foi pour aujourd'hui. Parce qu'on fait partie du peuple qui dit « Oui Seigneur, on veut accueillir plus de ta gloire ». Et quand on parle de la gloire, on parle de la présence, une manifestation de la présence de Dieu. Et ici, ce matin, et chaque dimanche, mais ce matin, je veux vous le dire, on accueille la présence du Saint-Esprit dans cette place. On accueille le cœur de Dieu pour ses enfants, la présence de Dieu, la présence tangible. Quand on est dans la présence de Dieu, ce qui était mauvais, ce qui était tout croche, Dieu restaure dans la présence de Dieu. On a juste besoin de se présenter. Et quand Dieu est là, il sait comment réparer nos bobos. Il sait comment guérir nos bobos. Amen. Puis c'est tellement doux et léger, on a juste à venir vers lui. On n'a même pas besoin d'expliquer. Seigneur, j'ai mal ici, j'ai mal là. Seigneur, je suis peiné ici. On n'a même pas besoin. On vient juste dans sa présence. Dieu qui connaît toutes choses, il met sa main. La main de l'Éternel vient et Dieu connaît toutes choses. Je dis pas ça pour dire qu'on prie pas, là. Mais quand on vient dans ce temps de la présence, la manifestation de sa présence, on a juste à venir vers notre papa spirituel, notre père céleste. On vient dans ses bras et lui, il sait comment nous soigner. Amen. Puis c'est une chose glorieuse que la terre va être remplie de la gloire de l'Éternel. Mais même aujourd'hui, on croit ça pour nous aujourd'hui. Dans Joël 2, verset 28. Joël 2, 28, c'est un verset que vous connaissez sûrement très bien, qu'on l'a souvent cité. Ça dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dites toute chair. Ça veut dire vous, ça, enfant de Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. qu'est-ce qui me bénit, moi, c'est d'entendre les rapports de la jeunesse de cette Église. Une jeunesse qui aime Dieu, qui a soif de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont pas peur de l'Esprit, mais ils disent, j'en veux plus, Seigneur. J'en veux plus. Ça, c'est mon cœur. Et c'est le cœur ici à cette Église. On veut voir plus de la gloire de Dieu. Puis on veut accueillir tout ce que Dieu veut faire. On ne veut pas mettre Dieu dans une boîte. Mais on veut voir Dieu se glorifier parmi nous. Comme vous savez, je reviens d'un voyage à Phoenix, en Arizona. Et on était peut-être avec 3000 personnes. C'est 3000 personnes qui étaient là, en train de louer le Seigneur. Puis qui l'adoraient. C'était des gens libres. Je pouvais voir la foule devant. On était dans cette grande foule. Puis voir les gens louer Dieu. C'était comme tangible. On pouvait ressentir, c'était comme, comment qu'on dit, c'est tranchant au couteau, là. C'est encore une expression québécoise que j'aurais pas, là. Mais en tout cas, c'était tranchant. La présence de Dieu, comme c'était glorieux. Et savez-vous, c'est pas juste pour Phoenix en Arizona. C'est pas juste pour les États-Unis. C'est pas juste pour le West Canada, mais c'est pour nous aussi. Et comme on loue, savez-vous, on était là des fois, je sais pas combien de temps, mais comme on louait le Seigneur, mais la présence de Dieu vient. Si je pouvais vous le décrire, mais je peux pas le décrire, mais on pouvait juste ressentir, c'est comme le ciel qui est là parmi nous. Il y a des places, on sait que Dieu est partout sur la terre, n'est-ce pas? Dieu est omniprésent, il est partout, il connaît toutes choses. Mais il y a des places où Dieu sait, où les gens ont tellement soif, qui sont tellement abandonnés à lui, que des places, on peut dire en anglais des portals. En français, c'est comme un ciel ouvert sur ces places-là. Et mon cœur, c'est pour nous qu'on devienne vraiment cette place, le portail de la gloire de Dieu, où Dieu vient, où Dieu relâche son armée céleste parmi nous, et où là où on vit des changements, là où on est touché par sa présence, touché par son Saint-Esprit, c'est notre cœur. Et ce matin, ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est des paroles prophétiques qu'on a reçues dans le passé et les paroles prophétiques qu'on a eues cette semaine. Vous savez, le fondement de cette assemblée, c'est la parole de Dieu. Mais dans la parole également, l'apôtre Paul a dit de livrer le bon combat en prenant les paroles prophétiques qu'on a reçues et de livrer le combat avec ces paroles-là. Et une des façons qu'on livre le combat, c'est quand on entend et on reprend ces paroles-là et on médite sur les paroles prophétiques qu'on a eues. Là, ça nous donne la foi pour livrer le combat. On dit, Seigneur, tu as dit. Et quand le Seigneur nous donne des paroles et après on a confirmation, vous savez, ça vient vraiment stimuler notre foi, n'est-ce pas? On est vraiment bénis. Alors ce matin, qu'est-ce que je veux faire? Je veux partager des paroles prophétiques qu'on a reçues en tant qu'assemblée ici. Et par la suite, je vais vous parler un petit peu du combat spirituel dans lequel nous nous retrouvons. Parce qu'on est dans un combat spirituel, pas juste pour la ville ici, pas juste pour le Québec, mais on livre un combat spirituel pour beaucoup plus. J'aimerais ça vous dire ça ce matin. On livre un combat spirituel, mais le Seigneur veut vous encourager ce matin. Le Seigneur veut vous encourager. Alors, je vais vous lire quelques versets, mais quelques paroles que j'ai reçues, surtout en anglais, donc j'ai traduit. Je me suis couché à 2h du matin pour être capable de vous donner ça. Mais je vais commencer avec une parole prophétique qu'on a reçue en 2010, le 22 janvier. Et puis, on a reçu beaucoup de paroles quand on était en Alberta, évidemment, parce qu'on était dans une place où vraiment le ministère prophétique était vraiment présent. Mais ce matin, je vais vous parler plus les paroles, je vais vous donner des paroles prophétiques concernant cette assemblée et qu'est-ce qu'on a reçu dans les temps plus récents. Donc, la première parole que je vais vous lire, cette parole-là est disponible sur le site web là, de notre église, mais le 22 janvier 2010, avec Pasteur Craig Barroker de l'église Southside Victory Church à Calgary et de l'émission TV Times of Refreshing. Là, il me donnait cette parole, il dit, « Mon fils, tu as commencé à mettre des choses en place en parlant de l'église ici. Il y aura un établissement selon ce que j'ai déposé dans ton cœur. » Excusez, non seulement dans le passé récent, mais dans le passé très éloigné. Les choses que je suis en train de façonner sont beaucoup plus grandes sous la surface en ce moment qu'elles le sont en surface. Donc, vous comprenez, il est en train de dire, les choses que je suis en train de façonner sont beaucoup plus grandes sous la surface en ce moment qu'elles ne le sont en surface. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit, c'est juste, c'est très petit comparativement à ce que Dieu a en réserve en dessous de ce qu'on ne voit pas. C'est pour cela que tu as dû te tenir debout contre autant de résistance, car l'ennemi connaît le territoire là où tu te trouves. Il sait qu'il y a des puits qu'il ne veut pas que l'on recreuse. Car si ces puits sont recreusés, remarquez les mots là, recreusés, le royaume de l'ennemi souffrira beaucoup et rapidement. Cette vision sera établie au nom de Jésus. Je veux vous faire remarquer le mot recreuser. Il y a des puits qu'on ne veut pas que l'on recreuse. Donc, il y a de l'opposition dans le monde spirituel. Ça, vous le savez. Vous le savez même, des fois, peut-être, certains d'entre vous, vous ressentez même l'opposition spirituelle. Et des fois, quand on ressent l'opposition spirituelle, on ne sait pas vraiment comment l'expliquer. Et des fois, comme moi, je peux quitter cette église un dimanche matin, ça a super bien été, je me sens béni, et je peux arriver chez nous, et c'est comme si je me suis fait ramasser par un gros 10 roues. Comment on peut se sentir? Comme une oppression qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'ennemi veut me décourager et j'ai aucune raison d'être découragé. Mais c'est comme ça vient contre toi. Et ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. Et des fois, on pense que c'est juste nous. On dit, ah, c'est juste moi, je me sens juste comme ça. C'est juste moi. Mais en fait, non. Quand on fait partie d'une armée, on est une famille spirituelle, mais en même temps, une armée, parce qu'on veut prendre du territoire pour la francophonie. Comme on est ensemble et on prie ensemble pour ces choses-là, bien l'ennemi va venir de toutes sortes de façons et il ne va pas nécessairement se prendre de la même façon avec tout le monde, mais il va y avoir une oppression qui va venir avec. Souvent, c'est ça. Mais on va voir comment on peut être victorieux dans tout ça. Parce que même si l'ennemi vient, ça ne veut pas dire qu'on l'accueille et puis on vit là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une résistance de notre part également. Mais il faut comprendre que comme nous sommes dans une guerre, l'ennemi veut empêcher la progression dans vos vies. Il veut nous empêcher de progresser d'une façon corporative. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? C'est ça, il dit à Craig Broker. Les choses que je suis en train de façonner en parlant de Dieu sont beaucoup plus grandes sous la surface en ce moment qu'elles ne le sont en surface. Et une des choses qu'il m'avait expliqué, il a dit au début, quand il savait qu'on s'emmenait dans cette réunion-là, il y avait une vision. Et dans cette vision, il voyait juste des petites roches devant nous. Des petites roches. Et il disait, il ne comprenait pas trop, mais après, il a vu qu'en dessous de la petite roche, c'était seulement une petite pointe des grosses roches qu'il y avait en dessous de la terre. Puis il dit, si ça prend plus de temps à établir le ministère au Québec, il dit, c'est parce que Dieu est en train d'établir les fondements. Il est en train d'établir les fondements. Et les fondements doivent être vraiment solides pour être capables de supporter ce qui s'en vient sur cette église, dans le monde spirituel. Et comme vous savez, je ne parle pas souvent des paroles prophétiques qu'on a eues. On prêche toujours la parole de Dieu. Mais ce matin, je pense que c'est important de se rappeler les paroles qui ont été prononcées sur nous. Parce que ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, qu'est-ce qui est en dessous, c'est plus gros que qu'est-ce qui est sur le dessus. C'est pour ça qu'on ne veut pas être guidé ou juste croire qu'est-ce qu'on voit avec l'œil naturel. Parce que dans l'œil naturel, on peut voir, il y a juste des petites roches. Mais en fait, ce n'est pas des petites roches, c'est la pointe des grosses roches, des rochers qui sont là. Une autre parole donnée par John DeWert, ça c'était le 30 mai 2004. Ça c'est une parole plus vieille, mais j'ai trouvé ça spécial. Ça, en parlant de nous, ça dit « Dieu se servira de vous comme un taquet, un couteau bien aiguisé qui brisera la glace sur ses cœurs gelés ou endurcis. » Elle discernait même à l'époque, en 2004, que dans notre appel, c'est que notre appel est là pour briser la glace qui recouvre les cœurs. Que des cœurs qui sont gelés, peut-être qui ont été gelés par toutes sortes de blessures, peut-être des blessures dans les églises, peut-être des blessures dans le monde, dans la famille. Il y a toutes sortes de façons où on peut être blessé. Mais elle disait que Dieu était pour se servir de nous comme un taquet, comme un couteau bien aiguisé qui brisera la glace. Qui brisera la glace. Et cette semaine, comme j'étais au mariage, peut-être vous saviez, Mathilde et moi, on était invités au mariage de Faith in Crisco, qui se mariait lundi, c'est ça? Non, mardi. C'est marié mardi. C'est spécial, elle a fait les choses toutes d'une façon différente. Nous, d'habitude, c'est samedi qu'on se marie, elle, c'est mardi. Et parce qu'elle voulait faciliter aux gens de participer dans une conférence prophétique. Spécial, hein? En tout cas, elle est comme ça. Et c'est ça, la parole prophétique qu'on a reçue de Brent Sloss, qui est un pasteur à Toronto, il était là avec nous. Et comme on était en train de prendre des petites grignotines après le mariage, on était dehors dans un gazebo, il dit, ce que je vois sur toi, il dit, c'est un couteau bien aiguisé. Et ça, quand je vous donne les paroles que je reçois, c'est pour vous aussi. Comprenez-vous? Parce qu'on est ensemble là-dedans. On est ensemble. On est un couteau comme ensemble, corporativement. Cette église, on est appelé à être un couteau bien aiguisé. Là, je vais vous donner une parole prophétique qu'on a reçue de Faithine. À son mariage, c'est assez spécial parce que, il y a toute la portion romantique, certainement, d'un mariage, mais il y a eu des paroles prophétiques des leaders partout à travers le Canada qui étaient là, qui ont donné des paroles sur leur vie. J'ai trouvé ça assez particulier. C'était assez spécial. C'était très beau de voir un mariage comme ça, fait avec excellence. Mais par la suite, le lendemain, habituellement, la journée après notre mariage, qu'est-ce qui se passe dans le monde normal? On s'en va à lune de miel, n'est-ce pas? Mais Faithine avait à cœur de venir prophétiser sur nous. Donc, on a fait une réunion. Vous savez, je fais partie d'un cluster. C'est un noyau d'intercession avec des ministres de la parole de Dieu. Et une fois par année, on essaye de se rencontrer pour aller prier ensemble à quelque part, soit au Canada, cette fois-ci, c'était aux États-Unis. Puis, on vient ensemble juste pour prier. Parce que comme on est en train de livrer un combat ici pour le Québec, pour la francophonie, si on fait juste donner, on vient épuiser à la longue. Donc, c'est bon d'aller se ressourcer puis d'avoir ce noyau qu'on a fondé il y a plusieurs années, mais un noyau d'intercession, de prière. Puis j'ai déjà partagé des choses dans le passé, mais c'était vraiment dans le surnaturel. Juste des choses que Dieu pouvait savoir qui ont été partagées. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le lendemain, après le mariage, Faithine est venue à notre cluster, notre noyau, pour prophétiser sur nous. Puis je vais vous lire un petit peu des choses que j'ai prises en note concernant qu'est-ce qu'elle nous disait concernant le travail ici. Elle disait, ça c'est la journée après son mariage, elle dit, je vois dans l'esprit les fondements du Québec, un sol très dur. Mais Dieu vous a donné un très puissant, en anglais c'était oil rig drill, une foreuse de plateforme d'huile. Donc une grosse drill, si vous voulez, en québécois. Il y a quelque chose de tellement profond dans la composante, in the fabric, dans la fondation. Le Seigneur veut vous dire que même si vous avez vu beaucoup de bonnes choses, vous n'avez pas encore frappé l'huile, mais vous creusez dans la bonne direction. Comme vous continuez à creuser, il y a une geyser ou une fontaine d'une bénédiction de l'alliance et de l'héritage dans la terre. Ce travail semble difficile et elle disait, obstinate, mais il y a de l'opposition. Mais c'est parce que vous creusez présentement dans la roche. Dur dans l'esprit, mais vous frapperez une geyser en dessous. Soyez encouragés, continuez à creuser, car vous frapperez de l'huile pour votre région. Là où il y a eu de la difficulté avec cet esprit religieux, là où il y a eu de l'opposition et de fausses accusations contre vous, elle est venue plus intense quand elle a dit ça, de fausses accusations contre vous, nous brisons les paroles de sorcellerie. La vindication, ou votre défense, votre justification, vient du Seigneur. Comme vous continuez à creuser et à rechercher sa gloire, à aimer les gens et de bénir les gens, vous verrez sa gloire. Donc, ce que Dieu nous appelle à faire, vous le savez, je le prêche souvent, on va s'aimer les uns les autres et on va aimer les gens de l'extérieur. On ne se défendra pas, on va continuer à aimer. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé spécial? C'est que comme Dieu nous appelle à livrer un combat, même si les gens aiment Dieu, vous savez, il y a des gens qui vont être le porte-parole de Satan, même s'ils aiment Dieu. Parce que dans la Bible, dans l'Apocalypse, ça nous parle que Satan, c'est l'accusateur des frères. L'accusateur, c'est son mandat, c'est d'accuser. Et c'est un de ses ministères, si on veut. Une des choses qu'il va faire, c'est pour emmener du découragement ou pour venir arrêter ou avorter les plans de Dieu, il va déléguer ou va inspirer des gens à parler dans la chair ou même parler connecté avec son esprit où il va causer des paroles de malédiction, des paroles où les gens vont se sentir attaqués spirituellement et on ne comprendra pas pourquoi, mais en fait, ça c'est de la sorcellerie qui se passe, même contre cette assemblée. Vous saviez peut-être pas, mais la sorcellerie, c'est d'essayer de manipuler des gens et de l'autre côté aussi, c'est de lancer des paroles négatives et de décréter de toutes sortes de choses mauvaises. Qu'est-ce qu'elle recevait dans son esprit? C'est que comme nous sommes en train d'accoucher les plans de Dieu pour cette région, Il y a d'autres personnes qui sont en train de maudire les choses, qui se rendent dans cette union avec Satan, l'accusateur des frères, pour détruire l'œuvre de Dieu, pour faire le sabotage. Bon, ça pour dire, mais l'encouragement pour ça. Elle dit, je viens briser ces choses-là au nom de Jésus. Et là, l'encouragement, c'est continuer à creuser. Vous savez, même Néhémie, lorsqu'il était appelé à rebâtir la muraille, il y avait des gens qui étaient attitrés juste à les décourager. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Ils étaient là attitrés juste pour envoyer des mauvaises paroles sur eux. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? Ça dit, même si ce travail est difficile, c'est qu'il y a une geyser, une fontaine de bénédiction de l'alliance et de l'héritage dans la terre. Soyez encouragés, continuez à creuser car vous frapperez de l'huile pour la région. Là où il y a eu la difficulté avec cet esprit religieux, là où il y a eu de l'opposition, de fausses accusations contre vous, nous brisons ces paroles de sorcellerie. Mais gloire à Dieu. Moi, je sais que le Seigneur, ça fait plusieurs fois que je le parle, que je le dis publiquement, je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose d'absolument miraculeux ici, dans cette place. Puis comme j'étais en train de louer le Seigneur, je ressentais dans mon esprit, comment dire, en anglais on dit « this awe », comme un genre de sentiment de « wow ». Puis ça me rappelait, vous savez, quand j'étais à l'antenne de TV, au Miracle Channel, on avait la possibilité de rejoindre au-delà de 10 millions de personnes par les voix de la télévision. Puis comme j'étais là, le Seigneur me disait, « T'as pas quitté cette possibilité-là, Joël, pour que ça l'arrête là. C'est un retrait pour un temps, pour rejoindre plus de gens encore. » Puis je vous dis ça aujourd'hui, si j'ai eu ce privilège de pouvoir rejoindre 10 millions par juste Miracle Channel, puis que le Seigneur me dit, « Relâche ça maintenant et viens implanter cette église », bien, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il va y avoir plus que 10 millions qu'on va pouvoir rejoindre ensemble. Je dis des choses, je sais peut-être certains d'entre vous vous disent, ben, c'est impossible. Mais notre Dieu est spécialiste dans les possibilités. Et savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que c'est pas à cause de nous. Le mandat que Dieu nous a donné, c'est à cause du cœur de Dieu pour la francophonie. Dieu aime tellement le peuple francophone ce peuple qui a été oublié. Pendant longtemps, faire plein de ministères. Les ministères, ils prennent soin des anglophones, des Italiens, de toutes sortes de nations. Le peuple francophone a été quasiment toujours oublié. Mais Dieu n'a pas oublié le peuple francophone. Et Dieu s'est choisi un peuple qui dit, nous croyons dans la vision, nous croyons que le peuple francophone mérite d'entendre le message de la foi, que Dieu est bon, que Dieu veut délivrer, que Dieu veut remplir de son Saint-Esprit, que Dieu veut libérer les captifs. Les gens ont besoin d'entendre ça dans la francophonie. Et c'est pour ça que Dieu est en train de rassembler des gens, même de d'autres nations, qui viennent s'établir ici pour répondre au mandat de Dieu pour la francophonie. C'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui et de son amour féroce qu'il a pour nous, notre propre peuple. J'ai donné ça. Juste vous dire que comme j'étais censé aller en France la semaine prochaine, ça faisait des semaines et même des mois depuis que c'était cédulé. Dans mon cœur, ça me disait, ça brassait, c'était comme, je parlais avec Pasteur Jérémy, je suis pas sûr que je veux y aller. Et vous savez, quand on pose des questions, je suis pas sûr de vouloir y aller. C'est un signe, hein? Puis la date s'en venait. Et puis c'est pas que j'aime pas le peuple français, c'est pas ça du tout. Puis je pouvais pas mettre mon doigt dessus jusqu'à cette semaine plutôt. C'est qu'on est en train de creuser en ce moment. On est en train de creuser dans cette roche qui est là. Et mon cœur n'était pas de partir en France pendant 10 jours. Mon cœur, c'est de rester ici avec vous. Puis quand on me posait la question avec l'équipe pastorale, sens-tu vraiment c'est le bon temps de partir? C'était ma révélation. Non, ce n'est pas le bon temps. Puisque tu le demandes, j'ai dit j'annule. Alors, je viens d'annuler cette tournée là-bas en France parce que je ressens vraiment dans mon esprit que le Seigneur veut faire quelque chose ici de vraiment spécial. Et j'ai pas le cœur de partir en ce moment. Je veux rester ici avec vous. Je veux rien manquer de ce que Dieu en réserve. Je veux pas manquer deux dimanches. C'est trop important qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans l'esprit. Amen. Et les pasteurs en France sont super gracieux. Ils m'ont relâché avec leur bénédiction. Ils comprennent. Mais ce que Dieu veut faire ici, moi, je crois qu'on est vraiment sur le bord de vivre des grandes choses dans le monde spirituel. Mais faut pas jamais se décourager. Faut jamais se décourager. Puis ce matin, c'est peut-être plus une thérapie de groupe que je suis en train de faire. Vous partagez mon cœur, je sais pas. C'est vraiment différent. Mais je crois que si vous êtes ici, c'est Dieu qui le veut comme ça. Mais il faut comprendre, je veux vous encourager parce que peut-être vous sentez parfois comme si vous livrez un combat tout seul. Mais on n'est pas tout seul, on est ensemble. On vit pas ce combat tout seul, mais ensemble, on va accoucher les plans de Dieu. Je veux vous dire, Dieu est pour nous. J'ai aimé aussi beaucoup la parole prophétique qu'elle me disait, Faithine, que j'ai pas traduit, mais elle me disait, elle dit, même si vous êtes loin, même si vous êtes isolé, elle dit, je veux que vous sachiez qu'on est avec vous. On est avec vous en esprit. Et on est là pour vous appuyer, pour vous applaudir dans ce que vous faites. Puis elle dit, quand les gens viennent contre vous, quand les fausses accusations viennent contre vous, elle dit, faut qu'ils passent par nous. Premièrement, on est là, à côté de vous. Et j'ai trouvé ça vraiment béni d'avoir ce temps-là, juste pour être ressourcé puis recevoir encore la parole de l'Éternel. Puis qu'est-ce qui est spécial, c'est que les paroles, comme on voit, le couteau aiguisé, deux fois on a reçu cette parole-là, l'autre, il y a autant de résistance parce que Dieu nous appelle à recreuser des puits. Et là, encore une fois, cette semaine, on est appelé à recreuser des puits ici. Et c'est quoi le fruit de ce travail? Bien, le fruit, ça va être cette fontaine de l'huile. Et l'huile représente le Saint-Esprit. Et donc, on n'est pas juste assis sur ou dans un miracle, on est assis sur quelque chose qui va exploser prochainement. Et on peut le ressentir dans le monde spirituel que c'est en train de vibrer. Et que bientôt, on va faire ça partir. Et l'impact, on a vu souvent cette vision de cette vague de la gloire de Dieu qui s'en vient. Mais c'est pas juste une vague d'eau, c'est une vague de son huile, l'huile du Saint-Esprit, qui va ramasser des gens, qui va ramasser des chrétiens qui sont religieux, qui aiment Dieu, mais qui sont religieux, puis qui ont soif pour plus. Ils disent, Seigneur, il doit y avoir plus. Je me souviens quand je venais de rencontrer ma femme, et puis elle avait soif de Dieu. Elle dit, je sais pas, il manque quelque chose. Mais son quelque chose, elle l'a trouvé. C'était Saint-Esprit qu'elle avait besoin. Elle avait besoin plus de l'Esprit de Dieu. Et Dieu l'a rempli. Amen. Et c'est ça que Dieu va faire pour plusieurs personnes. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Ils vont être ramassés dans cette vague de sa présence qui s'en vient. Et pour nous, et peut-être même plein de chrétiens de longue date qui veulent plus de Dieu, ils vont être ramassés également dans cette vague. Et c'est notre privilège de témoin de ce que Dieu va faire. Amen. Mais j'essaie de voir ce que je suis rendu. Là. La réalité de l'opposition, de la résistance spirituelle. Une des choses que je veux vous partager, bon, il y a une réalité de l'opposition spirituelle. Dans Éphésiens 6:12, ça dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, il y a une lutte pour nous. Soyez conscients de ça ce matin. Il y a une lutte dans Éphésiens 6:12. Et comment est-ce que les gens attaquent l'œuvre de Dieu ou comment est-ce que l'ennemi, en fait, c'est plus l'ennemi qui nous attaque, mais il se sert des gens qui ne savent pas nécessairement. Des fois, ils sont innocents, ils ne savent pas, ils pensent qu'ils parlent de leur tête, mais en fait, sont des instruments de l'ennemi pour parler contre ce que Dieu est en train de faire. Puis je peux vous dire, moi, j'entends pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui me vient aux oreilles. C'est plus dans l'esprit que je ressens. D'une semaine à l'autre, je peux le ressentir. Surtout des fois quand on vient de vivre une victoire, je ressens l'opposition spirituelle. Je le ressens dans l'esprit. Mais dans Jacques 3, 6, 9 à 10, ça dit, dans Jacques 3, verset 6 et verset 9 à 10, ça dit, « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, ou en parlant de l'enfer. » Verset 9, « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Donc, on comprend la façon que l'opposition spirituelle est relâchée, c'est souvent par la langue. Les gens vont parler. Mais notre appel en tant qu'Église ici, c'est de bénir. Amen. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Comme une compagnie de croyants, on veut bénir Dieu et on veut bénir les frères et les sœurs. Amen. Êtes-vous d'accord qu'on va continuer à faire ça? Je sais qu'on le fait, mais si certains d'entre vous, peut-être vous avez peut-être pris une fausse route pendant un temps et vous avez commencé à parler contre un frère ou une sœur dans le Seigneur ou même d'une autre église, on va dire tout de suite, Seigneur, pardonne-moi. Dites-le, Seigneur, pardonne-moi. Amen, c'est fait. Parce qu'est-ce qu'on veut? On veut vraiment pas faire ça. Parce que ça ferme les écluses des cieux sur nous. Donc, c'est super. Il y a tellement, quelque chose de tellement précieux qu'on va toucher dans le monde spirituel. Mais si on débarque du chemin, on entre dans cette dimension de la médisance, la calomnie, on va rentrer dans une dimension de confusion. Ça va être difficile de discerner la voix de Dieu parce qu'on va être confus avec notre voix et toutes sortes de choses qu'on est en train de dire. C'est super important que je vous dis, je sais, je l'ai dit souvent, mais si je le dis souvent, c'est parce qu'on a besoin de l'entendre. On peut rentrer dans ce piège-là de parler contre les gens, si on veut vraiment pas faire ça. Dans 1 Jean 4, 20, verset 21, c'est dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc ce matin, ce que je veux faire, vous encourager à aimer tout le monde. Aimez vos frères et vos sœurs de cette église avec une passion où vous allez défendre l'intégrité. Vous allez, votre nature, ça va devenir protéger la réputation de votre frère ou de votre sœur dans cette église et à l'extérieur de cette église. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Prendre cette alliance devant Dieu. Moi, je vais protéger mes frères et mes sœurs. Parce qu'une des choses que l'ennemi veut faire, c'est que l'église attaque l'église. Où il y a une guerre interne. Imaginez, une guerre interne. C'est sûr qu'on n'avance pas quand on est dans une guerre, un frère contre un frère. Amen. Donc, on veut faire ça. On veut vraiment aimer tout le monde. Et comprendre également dans Ésaïe 54, verset 17, c'est dit, « Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. » Ça, c'est dans la Bible du Semeur. Et dans Louis II, c'est dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ici, on peut ressentir l'oppression, mais il n'y aura aucun but. Dans le sens que ça n'atteindra pas son but de destruction. Ça peut juste nous faire accroire des choses et nous séduire à arrêter dans le chemin avec Dieu. La seule chose qui peut se passer, l'ennemi peut envoyer de l'oppression. Et si on commence à croire et entretenir les pensées qu'il nous envoie, si on nourrit tout ça, là, on va arrêter dans notre marche avec le Seigneur et les plans de Dieu vont être avortés. Mais, ça dit, toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et pour ici, pour cette assemblée, c'est la même chose. On va rentrer dedans. Amen. Amen. Dans Actes 13, 41, j'aime beaucoup cette parole prophétique que l'apôtre Paul a donnée en parlant aux gens religieux. Il disait, regardez, homme plein de mépris, les gens qui parlaient contre, homme plein de mépris, soyez dans l'étonnement et disparaissez. En effet, je vais accomplir une œuvre en votre temps, une œuvre que vous ne croirez pas si quelqu'un venait vous l'annoncer. Je viens de vous dire des choses ce matin, peut-être vous dites, je ne crois pas là-dedans, c'est trop glorieux. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit. Il prenait les paroles de Dieu. Dieu dit, je vais accomplir une œuvre en votre temps. Une œuvre que vous ne croirez pas si quelqu'un venait vous l'annoncer. Mais je viens vous l'annoncer ce matin. Dieu s'apprête à déverser sa gloire sur la francophonie. Dieu s'apprête à déverser sa gloire sur vous ce matin. Il s'apprête à le faire. Le croyez-vous ce matin? Il y en a qui disent, en ce moment, je ressens dans mon esprit, il y en a qui disent, ça fait trop longtemps que j'attends. Ça fait trop longtemps que je suis déçu. Ça fait combien d'années que vous vivez? Moins que 500 ans? Vous êtes encore très jeune. Ne perdez pas courage, enfant de Dieu. Ne laissez pas Satan vous voler votre foi dans ce qu'il veut faire. Dieu nous donne une stratégie. C'est sûr, on parle toujours de ça, puis je vais le dire encore. Un décret, Ésaïe 12, 2. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Voici Dieu est ma délivrance. Ça dérange pas ce que l'ennemi veut faire dans le monde spirituel. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Amen. Donc, je vais continuer à décréter ça, même si les gens vont dire, t'es tombé sur la tête? Peut-être. Oui, c'est vrai. Mais gloire à Dieu, il m'a rencontré quand j'ai tombé sur la tête. Amen. Les stratégies du combat spirituel. Dieu nous donne une stratégie ce matin. Je vais vous partager des choses qu'on va faire prochainement par la foi dans cette église. Éphésiens 6:13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu nous appelle à tout surmonter. Comment est-ce qu'on va faire? On doit comprendre les stratégies de l'esprit pour percer dans une région. Quand j'étais en Alberta, on était encore là dans le ministère et j'étais en train de louer le Seigneur un mercredi soir dans l'intercession et le Seigneur m'a donné une vision. Et dans cette vision, j'ai reçu un mandat pour le Québec. Je pensais même pas de revenir ici. Puis le Seigneur m'avait dit, je veux que tu organises Québec dans la gloire au mois d'octobre en 2007. Et quand j'ai reçu ce mandat-là, j'ai vu qu'on était ici, dans cette salle, dans cette même salle. Et Dieu m'a montré sur l'estrade qui était pour être là, les personnes que je devais convoquer. Vous connaissez déjà les invités qu'on a eus, ceux qui étaient là. Mais c'était des gens quand même avec un ministère connu et on a fait venir des gens d'un petit peu partout. C'était un temps que Dieu avait préparé pour préparer la région ici, Québec dans la gloire. Et c'est le temps où j'ai rencontré Martine et Pasteur Jean aussi, qui étaient ici, et d'autres d'entre vous que vous avez découvert l'Église à ce moment-là, mais ce n'était pas l'Église, ce n'était même pas dans les plans. Mais j'avais reçu dans l'esprit qu'on devait venir ici, dans cette salle, pour ouvrir le ciel par la louange prophétique. Cette réunion-là n'était pas un concert. Il y a des gens qui ont été déçus, ils pensaient que ça pourrait être un concert chrétien, typique, normal. C'était pas ça du tout. On n'avait jamais fait de publicité comme quoi c'est un concert. C'était une réunion d'intercession et de louange prophétique. C'est ça qu'on a fait en 2007. Mais moi, comme j'étais là-bas en Alberta, j'ai reçu comme cette vision-là, un flash, comme quoi on était appelé à faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, ben c'est bien, mais c'est pas nécessairement moi qui dois faire ça. J'ai dit, dis-moi si je peux appeler quelqu'un, partager ça. Mais Seigneur, il m'a donné une autre vision me disant, c'est à toi de faire ça. J'ai dit, OK, parfait. C'est que là, j'ai planifié cette réunion-là et Dieu a surnaturellement tout mis ensemble pour que ça l'arrive. Tout ça pour dire, une des stratégies pour percer le ciel pour une région, c'est la louange. C'est la louange, l'adoration. Ça vient ouvrir le ciel. Ça, c'est spécial parce que moi, je pensais pas de revenir fonder une église. C'était vraiment pas sur le radar. C'était pas dans mes plans là. Et j'étais dans le ministère là-bas, je pense, en tout cas, c'est ça. J'étais juste en train de louer le Seigneur, puis Dieu m'a donné ça parce que Dieu avait à cœur cette région et la francophonie. Donc, il a donné ce mandat-là. On est venu en obéissance, on a fait la réunion, gloire à Dieu, c'est fini. On retourne en Alberta, puis finalement, le Seigneur nous dit de revenir. On ne racontera pas toute l'histoire, mais finalement, ça revient à ça. Et comme j'étais dans la prière, le Seigneur m'a montré qu'est-ce que vous avez fait en 2007, mais en fait, Dieu nous appelle à le refaire. Que Dieu nous appelle, mais pas à le faire juste une fois, pas juste un événement, mais Dieu nous appelle à le faire comme un mandat de cette Église. Que par la louange, comme nous louons le Seigneur, le ciel reste ouvert et la gloire de Dieu, le ciel, envahit une région. Là, on dit, on le fait les dimanches matins, on loue le Seigneur les dimanches matins, mais Dieu nous appelle à faire plus encore. La stratégie de la victoire sur un territoire, dans le psaume 68, verset 25, c'est dit, « En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu des jeunes filles battant du tambourin. » Mais en tête vont les chanteurs. Dieu nous appelle comme Église à mettre une priorité pour la louange de cette Église. Une priorité dans cette louange que Dieu nous appelle à vivre. Et quand on met des choses en priorité, on met le portefeuille également dedans. Amen? Amen. Je suis content que vous dites amen. C'est un bon signe. Dieu nous dit de mettre ça en priorité. Comme j'étais, là je vous raconte plein de choses en Alberta, parce que c'est là où Dieu m'a parlé beaucoup concernant les choses qu'on va vivre. Mais comme j'étais là-bas, je savais un jour je reviendrai au Québec, mais je ne savais pas quand. Puis je disais, Seigneur, ce jour-là, quand je vais revenir, j'ai dit, je prie que tu nous prépares déjà un pasteur de la louange. J'ai dit, je veux pas quelqu'un qui est juste quelqu'un qui vient conduire les chants, qui fait ça comme ça. J'ai dit, je veux quelqu'un, Seigneur. J'appelle quelqu'un appelé de Dieu avec l'appel ministériel d'être plus qu'un conducteur de chants, mais un adorateur, premièrement. Quelqu'un qui est appelé de toi à t'adorer et pour emmener le corps de Christ dans une louange céleste. C'était ma prière. parce que je savais un jour quand on reviendrait, ben, ce serait super important et que la louange est aussi importante dans l'Église et dans le monde spirituel que la prédication, que c'est vraiment un. Si vous veniez à cette Église et on n'avait pas de louange, ça serait vraiment une Église différente, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça fait une grande partie importante dans notre combat spirituel. Alors, j'ai prié. Et puis, comme vous savez, pasteur Jean est là depuis le fondement de l'Église. Amen. Il est là depuis le début. Dieu avait entendu ma prière et Dieu l'a appelé à venir avec nous lors de la réunion Québec dans la gloire. Il était là comme un bénévole. Il n'était pas là pour jouer des instruments, il était là un serviteur de Dieu. Je me souviens quand je l'ai rencontré, il nous donnait des bouteilles d'eau. C'était comme ça que ça a commencé notre relation avec lui. Mais après, eux, ils ont ressenti quelque chose, l'appel de Dieu. Et puis là, on s'est rencontrés une autre fois, puis on a prié ensemble. Et quand on s'est rencontrés, Martine a eu une vision de la part de Dieu concernant ce que Dieu était pour faire ici. Gloire à Dieu. Là, ce matin, j'espère que vous êtes encore patients, parce que je veux vous partager des choses concernant la stratégie que Dieu est en train de nous donner maintenant pour cette Église. Je vais vous lire des textes Josaphat, dans 2 Chroniques 20, versets 21 à 22. 2 Chroniques 20, versets 21 à 22. Ça dit, « Puis, d'accord avec le peuple, Josaphat nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Voyez-vous, une des clés qu'on a dans notre assemblée, une des clés qu'on a vraiment besoin, c'est d'avoir ces chantres-là. On a besoin, pasteur Jean et l'équipe de louanges, là devant nous, à livrer le combat spirituel. Et en ce moment, c'est-à-dire au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Et l'embuscade, quand on va dans l'hébreu, ça nous parle ici, c'était causé par des anges, que Dieu a relâché une armée céleste lorsque les chants ont commencé à chanter et décréter la parole de l'Éternel. Et les anges ont été relâchés pour livrer un combat spirituel pour une région. Et la victoire était là. Bien, nous, on est en train de livrer un combat pour des peuples, des nations francophones. Quand j'étais dans la louange là-bas, j'avais une vision des nations constamment devant mes yeux. Dieu est en train de nous appeler à rejoindre les nations francophones, frères et sœurs, mais on a besoin plus de louanges, on a besoin plus de la présence de Dieu, et notre pasteur Jean travaille 70 heures par semaine. Dieu veut le relâcher, frères et sœurs, pour qu'il soit un chantre à temps plein. C'est mon cœur, ce matin, que je vous partage. Josué a vécu une expérience, Josué 6:20. Je lis premièrement Hébreux, chapitre 11, verset 30. Bible du Sommeur, ça dit, par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées. Les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple a eu fait le tour pendant 7 jours. Ils ont marché en obéissance. Et dans Josué 6:20, ça dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Ça va se passer au Québec, frères et sœurs. Remarquez quand même les gens qui sont impliqués. C'est pas les porteurs d'armes ici, dans le naturel, mais c'est porteurs d'armes dans le spirituel qui sont là premièrement. Il y en a qui vont dire, avons-nous les moyens d'engager pasteur Jean? Avons-nous les moyens dans le naturel? Dans le naturel, est-ce qu'on avait les moyens de m'engager moi? Non. On n'a jamais rien fait de normal. Le monde normal, savez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre leur argent pour acheter un bâtiment. Le monde normal, ils vont engager une secrétaire pour relâcher le pasteur. Mais je vous ai dit bien des fois, nous ne sommes pas normales. Ce qu'on veut engager, la personne qu'on veut engager, en plus, c'est un chantre qui va ouvrir les cieux dans le monde spirituel. Ça va être plus profitable. C'est plus profitable. Mais si vous cherchez une église normale, nous ne sommes pas cette église. Nous ne sommes pas cette église et nous ne le serons jamais au nom de Jésus. On ne sera pas normal. Parce que notre Dieu est grand et tout puissant et on ne sera pas jamais limité par notre intellect. Dans Josué 3:13, ça dit « Dès que les prêtres qui portèrent le coffre sacré ou l'arche de l'Alliance posèrent les pieds dans le Jourdain, ils posaient les pieds dans le Jourdain, le cours de la rivière sera coupé, en amont, l'eau sera arrêtée comme par une digue. » Verset 17, « Tout le peuple d'Israël passèrent à pied sec et jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. » Voyez-vous, des fois, pour voir le Jourdain ouvrir devant nous, on doit prendre un pas par la foi. Comme on prend le pas par la foi, Dieu fait le miracle. Si on attend que le miracle arrive et là on dit, ah, finalement, tout est beau, tout est parfait, OK, là on embarque. C'est pas comme ça, ça marche. Ça ne marche jamais comme ça. Faut aller dans l'impossible pour voir le miraculeux. Si c'est normal, puis ça fait du sens, ben là, on a tout calculé, tout est beau, maintenant on peut le faire, mais c'est pas un miracle. Ça, c'était une évaluation juste intellectuelle. Ceci dit, Dieu ne nous appelle pas à oublier notre cerveau, mais Dieu dit, avec ton cerveau, je suis capable de faire plus que ça. Donc, suis-moi, marche avec moi, écoute-moi. Ma job, mon travail, c'est de dire oui, papa. Oui, papa. Donc, par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche. Alors que les Égyptiens ont essayé d'en faire autant, ils ont été engloutis. Donc, on voit la mer Rouge et le Jourdain, les deux fois Dieu a ouvert la mer pour son peuple. Donc, la stratégie de la victoire pour la gloire également. Non seulement est-ce qu'on a besoin d'ouvrir le ciel, mais par la suite, on a besoin d'avoir la gloire de Dieu qui va venir ici. Dans 2 Chroniques 5, versets 13 à 14, ça dit « Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Ils célébraient l'Éternel par ses paroles, car il est bon. » Ils n'ont pas dit « il est mauvais, puis c'est lui qui vous donne le cancer. » Là. Remarquez, « car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » C'est ça qu'il décrétait, c'est ça qui sortait de la bouche. « En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. » Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et je m'attends que cette gloire va nous remplir, tous et chacun. Amen. Mais remarquez, en ce moment, lorsque les chantres ont chanté, la gloire de Dieu est descendue. Notre quête ultime comme assemblée ici, notre quête ultime, c'est pas d'avoir une belle église, c'est pas d'avoir un beau bâtiment. Même, oui, ça fait partie des projets, on aimerait ça, mais c'est pas notre but. On peut avoir une belle bâtisse sans la présence de Dieu. Faut en voir des cathédrales, mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est pas le bâtiment qu'on veut. Oui, on dit, Seigneur, envoie-nous le bâtiment. Oui, on reçoit par la foi. Mais notre cœur, notre but d'exister, c'est sa présence. C'est ça qu'on veut. On veut sa présence, plus de sa présence parmi nous. C'est ça qu'on veut. Dans le psaume 84, verset 10, ça dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Une des choses que je peux vous dire concernant, ça c'est une des choses en passant. On n'a pas tout défini comment on va faire, mais on reçoit de Dieu qu'on engage pasteur Jean dans les mois qui vont venir. Amen. On fait ça par la foi. On fait ça par la foi. Puis savez-vous, Dieu nous appelle à être ses soldats. Combien de pays, disent à leurs soldats, vous devez ramasser l'argent pour vos fusils, pour toutes les choses, pour acheter le char d'assaut. Ramassez, faites des levées de fonds là, pour acheter le char d'assaut. En connaissez-vous beaucoup d'armées qui font ça? Nous, on est l'armée de Dieu. Je ne ferai pas de levée de fonds, moi, pour ça. Je ne vendrai pas du chocolat. C'est vrai? Non, mais sérieusement, Dieu est notre source. Dieu est notre source et Dieu est votre source. Comme vous marchez en obéissance à Dieu, comme vous marchez en obéissance, parce que vous aimez Dieu, pas parce que vous sentez une pression, parce que vous aimez Dieu, vous êtes des vrais adorateurs de Dieu. Dieu, vous allez relâcher à Dieu ce qui lui appartient. Dieu va vous bénir d'abondance. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, vous pourrez méditer là-dessus. Dieu va vous bénir. Dieu va nous bénir et on va bénir plus de monde. Ça va être comme ça. Si vous êtes un réservoir, vous gardez tout pour vous, vous vous demandez pourquoi vous êtes malheureux, ben Ne cherchez pas très loin. Mais si vous êtes un canal de sa bénédiction, vous relâchez à Dieu ce qui lui appartient. Dieu va relâcher sur vous ce que vous avez de besoin et tous vos besoins vont être rencontrés selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On est cette armée. On dit oui, Seigneur. Et c'est lui qui va nous acheter ce qu'on a de besoin. C'est lui qui va fournir. Comme il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça pour nous. J'ai jamais quêté en avant. Avez-vous remarqué ça? Je suis jamais un dimanche matin dit, oh, on a besoin, on crève de faim. Non, parce qu'on crève pas de faim. Parce que Dieu, mon Dieu, est un bon Dieu. Il va pourvoir pour nos besoins. Il va pourvoir pour tous nos besoins. Amen. Amen. Notre quête, c'est sa présence. Dans le psaume 127, verset 1 à 2, ça dit, le psaume de Salomon, ça dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Il faut que ce soit Dieu qui travaille. Et une des choses, je vais lire l'autre verset, là, puis après je vais vous dire un autre changement qui s'en vient. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. C'est-tu merveilleux, ça? Donc Dieu, une des choses que Dieu m'appelle à faire, dorénavant, quand j'étais dans la dernière réunion à Phoenix, Arizona, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, je suis jaloux de tes avant-midi. Et dorénavant, ce que je veux faire, si vous m'envoyez des courriels, si vous m'envoyez, vous m'appelez le matin, je ne répondrai pas. Je consacre mes avant-midi au Seigneur. Dorénavant, j'ai pris le temps avec le Seigneur. C'est pas nouveau. Ah, ben là, je vais commencer à prier. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est que mes avant-midi, ce que je crois, ce qui va être plus productif pour notre Église, c'est pas que je réponde à 10 000 courriels par jour. Et que je prenne du temps à faire plein de choses administratives. On a encore besoin de l'administration, c'est correct. Mais quand je vais répondre aux choses, ça va être en après-midi. Dorénavant, ce que je ressens, ce que j'ai reçu de Dieu, c'est que j'ai besoin de passer plus de temps avec Dieu. Les avant-midi de la semaine, vous allez m'appeler, admettons, chez nous, ça va être le répondeur ou mon épouse qui va répondre. Puis, à moins que ce soit une urgence, je ne répondrai pas. Parce que ça va être un temps sacré entre moi et mon Dieu. Puis je crois que vous allez comprendre. Parce que savez-vous, je me suis fait beaucoup voler de mon temps spirituel avec Dieu à cause de l'administration. Puis je veux un changement là-dedans. Puis quand j'étais dans la présence de Dieu avec 3000 adorateurs qui étaient là, c'est ça qui est venu dans mon esprit. C'est comme je suis jaloux de tes avant-midi. Es-tu capable de me livrer ça? C'est des heures par jour, avant-midi, là, dépendamment de l'heure que je... Mais savez-vous, ce temps-là, ça va changer ma vie, ça va changer l'Église. Il va y avoir des changements qui vont se passer ici. Puis si vous appelez le matin, puis vous appelez 2-3 fois, puis comment ça, il ne m'a pas rappelé le pasteur, vous allez comprendre, j'étais en rendez-vous avec Jésus. Puis je veux que vous compreniez ça, puis c'est pas que je vous aime pas, que je retournerai pas tout ça, mais ça se peut que ça va être moins rapide aussi, mes réponses. Allez-vous m'aimer quand même? Si j'arrive pas à répondre à 10 000 courriels, c'est pas que j'aime pas ça répondre, j'aime ça répondre. Je vous aime tous, j'aime ça être en communication avec tout le monde. Mais je sens vraiment que je dois me préparer pour ce qui s'en vient présentement. On est sur le point d'arriver à cette place, à cette percée où on va frapper l'huile. Et pareillement, moi, j'ai besoin de me mettre plus à part. Notre quête, c'est sa présence. Je vais lire un dernier passage. Merci, vous avez été patients ce matin. Le psaume 27, versets 1 à 8. Je vais vous lire ce passage-là en terminant. Ça dit, un psaume de David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ça, comment est-ce qu'on peut dévorer quelqu'un? Par des fausses accusations. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sous un rocher. Et déjà ma tente s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit, de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est notre prière ici à l'Assemblée. Je vais inviter l'équipe de la louange. C'est notre prière ici. C'est de chercher plus sa face. De chercher plus sa face. C'est une stratégie. La louange, pour entrer dans notre appel prophétique sur cette Assemblée, pour rejoindre plus de nations, la stratégie que le Seigneur nous donne, c'est de mettre la louange en priorité dans cette Église. C'est notre priorité, la louange, l'adoration, et par la suite, la poursuite de sa présence, la recherche de sa présence. Et savez-vous, c'est pas juste pour l'équipe pastorale, c'est pour chacun d'entre vous. Amen. Amen. Recherchez plus sa présence chez vous. Peut-être vous priez en ce moment une demi-heure par jour, mais peut-être le Seigneur va vous dire, j'aimerais ça une heure par jour. Allez-vous dire oui au Seigneur? Il recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Mais on doit abandonner des choses. Peut-être Dieu va vous dire, fais du ménage dans tes téléromans. Peut-être mets de côté Facebook. Peut-être fais ci, peut-être fais ça. Viens avec moi. Je vais te montrer des choses glorieuses. Viens avec moi. Je veux te toucher. Il y a des choses dans ton cœur qui sont malades. Je veux mettre ma main de guérison là-dessus. Si on se laisse juste toucher par Dieu, lui donner du temps, il va le faire. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux vous encourager. On va chanter ce chant, exalté. On peut rester ensemble dans cette famille spirituelle, cette famille qui aime Jésus. Et on va l'exalter ce matin. On va l'exalter parce qu'il en est digne. On va l'exalter à l'avance pour les choses qu'il s'apprête à faire parmi nous. On va l'exalter pour nos familles qui s'en viennent. Peut-être nos enfants qui ne sont pas sauvés encore. On va l'exalter parce qu'ils s'en viennent dans le royaume. On te remercie, Seigneur, pour cette vague d'huile qui s'en vient sur nous. Cette vague de ton esprit qui s'en vient ramasser tout le monde qui sont perdus, qui touche les gens dans nos familles, qui touche les gens à notre travail. Oh, merci, Seigneur Dieu. On va te louer ce matin, t'exalter. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Tu es là en ce moment. Seigneur, merci pour tes plans. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. On reçoit cette parole avec foi. Parce que sans la foi, il est impossible de vivre quelque chose avec toi. Seigneur, merci pour ce peuple. Merci pour le miracle, le fleuve dans lequel on est en ce moment. Seigneur, je bénis chaque personne ici présente. La religiosité et les effets, les conséquences de la religion dans vos vies est brisée au nom de Jésus. Je déclare que des rêves se réveillent, que des choses, les choses que Dieu met dans votre cœur, à laquelle souvent vous avez peur de penser jusqu'au bout. Les rêves que Dieu a mis dans votre cœur, les miracles et les signes auxquels il vous appelle, ces choses, je les réveille en vous, au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer une nouvelle consécration. Je veux déclarer une nouvelle consécration pour chacun de vous. Dans le peuple, il y a toujours des incrédules. Je veux déclarer pour ceux qui croient une nouvelle consécration. Je vous en prie, passez du temps avec Dieu. Dieu m'a dit qu'il m'a envoyé ici, vers les fils de mon peuple. Et les Québécois sont les fils des Français. Et je crois que la gloire de Dieu va visiter ce lieu. La gloire de Dieu va visiter cette église, je vous assure. La présence de Dieu va venir d'une façon extraordinaire. Cette présence de Dieu, il y a des gens de toutes les églises autour qui viendront ici pour recevoir la gloire de Dieu et pour la déverser dans leurs églises. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais Dieu est puissant. Et je vous assure, faites confiance à Dieu. Il y a des gens ici de Jeunesse en Mission, j'aimerais vous parler. La gloire de Dieu est pour vous. Attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Vous pouvez amener plus de feu là où vous êtes. Jeunesse en Mission doit vivre un réveil. Doit vivre quelque chose de nouveau. Vous êtes une jeunesse particulière ici. Vous devez prier ensemble. Vous priez trop peu ensemble. Vous devez prier ensemble, passer du temps. Parce qu'un peuple qui s'unit ensemble et qui croit en Dieu va voir la gloire de Dieu. Je crois qu'alors que le peuple de Dieu et cette église marchent dans l'unité, La présence merveilleuse de Dieu va venir. Et je vous en supplie, arrêtez, arrêtez de vous sentir condamné. Arrêtez de penser que vous ne faites jamais assez. Parce que Dieu vous aime d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Et Dieu a confiance en vous. Plus de consécration. Plus de consécration.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.